BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedretti.
Il reste une demi-heure de cotation à la Bourse de Paris. Cette question, est-ce que les marchés sont en train de caler? On va en parler avec nos invités du club dans un instant. Étienne Braque, on a cassé la barre des 8000 points ce matin, et là on est toujours très proche sur le CAC de la barre des 7900 points.
Oui, et puis surtout, le CAC 40 pourrait bien signer sa pire séance de l'année, peut-être même sa pire séance depuis mai dernier. Moins 1,53 à l'instant, 7922 points, des plus bas de 6 semaines. Il faut revenir à fin février pour retrouver un CAC 40 à de tels niveaux. Vous avez 38 valeurs du CAC 40 qui sont dans le rouge, les valeurs cycliques, et puis aussi le secteur du luxe, secteur bancaire, qui perd plus de 2% aujourd'hui, sous pression, avec un 10 ans américain qui est sur des plus hauts de novembre dernier, à 4,65, le 2 ans de son côté qui flirte avec les 5%, le pétrole qui repart très légèrement de l'avant à 90$ grâce à une hausse de 0,1%. Alors souvenez-vous, hier le marché avait gagné 0,4%. C'était quand même assez spectaculaire cette hausse avec le contexte actuel. Depuis hier, pas grand-chose de nouveau, mais le marché se rend compte qu'en termes de perspective, ça va être compliqué. Et puis surtout, il attend les résultats d'entreprise, les grosses pondérations qui vont publier ce soir LVMH, demain ASML. Jeudi, vous aurez L'Oréal. Donc à court terme, ce sont ces résultats d'entreprise qui vont permettre au CAC 40 soit de se reprendre ou soit de continuer sa correction. 7923 à l'instant, le tout avec du volume, puisque vous avez 1,7 milliard d'euros négociés à précisément 30 minutes du fixing.
Merci beaucoup Étienne. Qu'est-ce qui inquiète le plus les investisseurs? Qu'est-ce qui pourrait enclencher un mouvement de correction? On en parlera avec nos invités du club dans quelques instants. La croissance chinoise, on va également en parler. 5,3% au premier trimestre, c'était 5,2% le trimestre précédent. Les économistes s'attendaient à une dégradation, c'est une bonne nouvelle, mais est-elle aussi bonne que ça, cette nouvelle? On verra pourquoi il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence. Et puis, on parlera aussi de l'inflation aux États-Unis. Bank of America a analysé la tendance sur les trois derniers mois. Si on poursuit cette tendance, alors l'inflation américaine pourrait atteindre 4,8% en novembre lors des élections. C'est une projection, bien sûr, mais elle pourrait renforcer encore l'hypothèse d'un statu quo monétaire cette année aux États-Unis. 17h06, le club.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Isabelle Hénos nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas Banque Privée, et François Monnier, qui était déjà avec nous tout à l'heure, directeur de la rédaction d'Investir. Les marchés actions sont-ils en train de caler? Quand on voit la séance aujourd'hui, on peut se poser la question. Est-ce qu'on se dirige vers une consolidation? Depuis le début de la semaine, on assiste à une remontée des taux obligataires, des prises de bénéfices aujourd'hui sur les actions. Isabelle, on va prendre les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui provoque cette tension sur l'obligataire?
Alors clairement, c'est les chiffres liés à l'inflation et globalement à l'économie américaine qui montre qu'on est quand même sur une économie extrêmement robuste. Il faut avoir en tête qu'il y a quelques mois encore, on parlait d'atterrissage en douceur de l'économie et aujourd'hui, on parle de plus du tout d'atterrissage. Donc on a quand même une économie qui nous montre des signaux extrêmement forts. On a eu encore les ventes de détail cette semaine, on a un marché du travail qui est solide. Alors ça, c'est les chiffres dans leur ensemble. Après, il y a toujours une petite finesse d'analyse qu'on peut avoir sur les signaux que ça peut nous donner dans les mois à venir, mais clairement, l'économie est solide et ce qu'on attendait en début d'année en termes de baisse des taux d'intérêt, ben on n'y sera pas. Où on sera, donc les prochains mois nous le diront, mais effectivement on a très largement revu les attentes de baisse des taux d'intérêt, donc forcément ça vient créer un peu de tension sur le marché obligataire. Puis souvent le marché obligataire est aussi un signal avancé d'un climat global sur les marchés financiers, et donc c'est vrai qu'on a une forme d'accumulation d'éléments que le marché jusqu'à présent n'avait pas voulu regarder et qui commence à se matérialiser par ces taux et qui reflète aussi un climat un peu plus global.
On va faire un peu de pédagogie, quel est le lien entre la remontée des taux obligataires et les difficultés des marchés actions?
Alors clairement, ça va être à la fois une question de valorisation, d'une part une question de valorisation, et puis après, de toute façon, ça nous donne des coûts de financement qui vont être beaucoup plus importants pour les entreprises, et forcément, c'est un contexte qui est un peu moins favorable.
Ça pèse sur la rentabilité.
Exactement.
D'une manière générale, vous avez le sentiment que les marchés d'actions sont peut-être un peu surévalués, le mot est peut-être fort, mais est-ce qu'au regard des perspectives de résultats, on est correctement valorisé? Est-ce qu'on est un petit peu au-dessus de ce qu'on devrait être?
Alors ça, c'est une grande moyenne et on a vu beaucoup de dispersion sur les marchés depuis un an et demi, et donc il y a forcément de la dispersion également dans les valorisations. Donc ça va être segment par segment, mais au sein d'un même segment, on parle du luxe beaucoup en France, clairement au sein du secteur du luxe, on peut pas avoir une image qui est complète. On voit bien que le dossier Kering est pas du tout est dans la même situation que des sociétés dossier comme Hermès ou comme LVMH. Donc la question globale de la valorisation, elle est...
Elle ne peut pas être globale, justement.
Elle ne peut pas être globale, et encore moins après la dispersion qu'on a connue. Même sur le secteur de la tech, on voit bien, on a beaucoup parlé des 7 magnifiques. Bon, ben, clairement, si on regarde le reste de la tech, il y a encore des dossiers aujourd'hui où il y a du potentiel. La croissance, elle est là. On a des croissances de bénéfices attendues aux États-Unis, en Europe. Donc ça laisse du potentiel maintenant au cas par cas. Et la période de publication des résultats qui s'annonce sera le juge de paix au cours des prochaines semaines.
François Monnier, je ne veux pas être désagréable, mais vous êtes quand même sur ce marché depuis très longtemps. Vous connaissez un petit peu, vous avez connu des épisodes de marché un peu compliqués. Il y a souvent un catalyseur, un élément déclencheur dans les phénomènes de correction. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît le plus inquiétant pour le marché? Est-ce que c'est le retour de l'inflation? Est-ce que c'est la possibilité d'un statu quo monétaire aux États-Unis? Est-ce que c'est la géopolitique avec ce qui s'est passé en Israël ce week-end?
Mais pour l'instant, il n'y a pas de catalyseur. Pour l'instant, ce qu'on observe en ce moment, c'est plutôt une phase d'attentisme et d'agacement. D'attentisme.
Pareil, je vous ai manqué de respect, me dit mon réalisateur.
Non, mais il y a pas de... La bourse, c'est de la mémoire, et c'est important d'avoir vécu quelques crises pour pouvoir commenter, parce que souvent, on peut voir qu'il y a des biais, il y a des comportements des investisseurs qui se ressemblent dans des phases de hausse et dans les phases de baisse. Là, ce qui se passe, c'est que le scénario change. On est dans une sorte de nini. La BCE va tenir ses engagements. Oui, elle va baisser ses taux d'intérêt en juin, mais pour des mauvaises raisons. C'est pas que l'inflation, on a vraiment réussi l'inflation en Europe et les Américains auraient pas réussi. C'est qu'en Europe, on n'a plus le choix, et dans la zone euro, on n'a plus le choix parce que la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc on n'a plus de croissance ou pas beaucoup de croissance. Donc on va baisser les taux pour restimuler un petit peu la croissance. Donc on desserre la bride. Aux États-Unis, ils ont les moyens de patienter. Simplement, ce n'est pas le scénario qu'ils ont vendu aux investisseurs. Ils avaient vendu aux investisseurs, en gros, une baisse au premier semestre. Et là, la baisse au premier semestre, on ne l'aura pas. Sauf effondrement de l'inflation dans les semaines qui viennent, mais on ne la voit pas trop arriver. Donc, il faut changer un peu le cursus et la méthodologie d'approche sur l'exercice 2024 en disant, premier semestre, le scénario de baisse des taux, il n'aura pas lieu. Et donc, ça jette bien sûr des doutes sur une baisse des taux au second semestre, sachant que c'est un second semestre particulier, avec une élection capitale, l'élection présidentielle en novembre, et donc peut-être première baisse des taux, décembre.
Et l'un des candidats, vous le disiez tout à l'heure, qui a plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas de baisse de taux avant
absolument.
L'élection.
Absolument. Et il fait déjà une pression sur Jérôme Powell, qu'il avait nommé en licenciant Janet Yellen, qui est aujourd'hui au Trésor. Donc, on voit que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît bien, et donc il y a des pressions un petit peu partout. Donc ça, c'est le contexte inflationniste, et le contexte obligataire a changé. Donc résultat, il y a des répercussions sur le marché action. Mais de là à s'alarmer parce qu'on perd 1,6%, c'est rien. 1,6% de
baisse.
Je ne
m'alarme pas, je constate.
Voilà. Non mais là c'est voilà, on commente parce que depuis le début de l'année, on a que des hausses et depuis plusieurs mois on est dans le vert. Donc dès qu'il y a un petit peu de rouge, on se dit ça y est.
Mais quand même, Étienne Braque nous le disait tout à l'heure, si on continue comme ça sera la pire séance depuis mai 2023, je crois.
Oui, mais des séances en dessous de 2%, c'est il y a pas de sujet.
Devenu très rare.
Donc, là, clairement, il n'y a pas de changement de perception. Le marché, il souffle. On sait qu'on va rentrer dans une période de distribution des dividendes. Donc, il y a forcément une pression baissière sur les indices, sauf sur le DAX, où qui est dividende réinvesti. Et puis, surtout, on attend l'heure de vérité. Et là, ça va commencer avec la période de publication des résultats des entreprises.
Ce soir, LVMH.
Est-ce que les entreprises captent toujours de la croissance et de la croissance bénéficiaire? Eh bien, ça, on va le savoir dans quelques heures, voire dans quelques jours pour certaines.
Isabelle, à entendre François, dans l'échelle des risques pour les marchés, j'ai l'impression que la question des taux des banques centrales, ça reste... Le risque, ou en tout cas le facteur d'inquiétude le plus important.
Oui, parce que c'est aujourd'hui celui qu'on matérialise le mieux, puisqu'on a des données économiques qui nous permettent d'illustrer ou de se projeter. Mais comme le disait François, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, de voir une respiration du marché. Ce serait inquiétant avec cette accumulation de risques qu'on vient de lister, à la fois géopolitique et à la fois économique ou monétaire, que les marchés ne réagissent pas. Mais une baisse d'un demi, ça fait partie d'1,5%, ça fait partie d'une baisse traditionnelle que l'on peut avoir dans les marchés. On l'oublie l'oublie, et c'est là où c'est le plus dangereux. Et si les marchés ne réagissaient pas au contexte qu'on avait là, ce serait presque inquiétant, parce que ça voudrait dire qu'on est complètement anesthésié, et qu'au moment où on aurait vraiment un élément très particulier, là on pourrait avoir une consolidation beaucoup plus forte.
Je vais quand même vous donner deux chiffres. 2404 $, c'est le cours de l'or, donc on évolue proche des niveaux records. L'or est considéré comme une valeur refuge, et le VIX, qui est l'indicateur de volatilité du marché américain, est à son plus haut niveau depuis octobre 2023, lorsque le Hamas avait attaqué Israël. Alors, ça reste modéré, hein, le VIX, il est en dessous de 19, mais on a quand même le sentiment qu'il est en train de se passer quelque chose.
Oui, forcément. Là, 19, c'est à peu près la moyenne du VIX sur les dernières années.
Mais on était donc, bien en dessous ces derniers mois.
On était sur un niveau de volatilité sans doute peut-être extrêmement faible. Finalement, on ne prenait aucun risque dans le marché, et le risque, ça fait partie inhérente d'un investissement. C'était presque plus là le côté étonnant. Moi, j'ai envie de dire que vu le contexte, ça semble être un niveau qui est tout à fait raisonnable. On pourrait même aller chercher un tout petit peu plus haut.
Je lis dans vos pensées, François. On est en train de surjouer la crainte.
Bah disons qu'un VIX à 14, ça n'a pas de sens. On est quand même dans une situation, il faut quand même le rappeler aux auditeurs, c'est qu'on est dans une situation où on a un endettement public des États stratosphérique. On sait qu'on a une dette, si on regarde que la France, à 3100 milliards, 112% du PIB, et que les charges financières ne vont faire que d'augmenter dans les années qui viennent. Et donc la marge de manœuvre des États, elle est quand même assez limitée. Et c'est la même chose aux États-Unis, et c'est la même chose dans beaucoup de pays. Donc on a des États qui sont quand même très endettés. On a une situation géopolitique qui se dégrade, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Proche-Orient, peut-être demain Taïwan. Et puis on n'a pas de visibilité sur est-ce qu'on va réussir à vaincre ou pas l'inflation. Donc ces risques-là méritent d'être pris en compte, et c'est plutôt sain que le marché s'ajuste quand le contexte évolue. Mais tant qu'on n'a pas des baisses de 3 à 4... Une baisse, pour avoir un changement de tendance, si vous voulez des chiffres, parce que je sais que vous aimez être précis, Stéphane, pour se dire...
Vous savez ce que disait Mark Twain, l'auteur américain, les chiffres ne mentent pas, mais les menteurs adorent les chiffres.
Voilà, donc après, ça je vous dis pas que vous êtes menteur. Hein.
Parfois, tout à qui aussi.
Mais un changement de tendance, quand on est sur une tendance aussi haussière, c'est pas une baisse de 1,5%. C'est si le CAC 40 craque et perd 3, 4, 5, 6% à une seule séance, et là on se dit, ok, ça y est, la tendance haussière, elle est finie, et on est en train de rentrer dans un nouveau scénario. Là, on est plutôt dans une phase d'ajustement. Alors, je sais que médiatiquement, on aime bien surjouer les hausses ou les baisses, mais là, on est plutôt vraiment, on s'ajuste, on respire, on souffle, et on va regarder dans quelques heures les publications des entreprises la qualité des résultats.
Ça n'est pas BFM qui a inventé quand même « sell in May and go away ». Là, on est à quelques semaines du mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer, Isabelle ?
On va
partir en vacances avec nos dividendes et nos bénéfices.
Non, je pense que là, on regarde attentivement ce qui se passe, et effectivement, on va aller regarder les résultats des entreprises. Ça reste quand même le juge de paix. On peut avoir des événements, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur. Si on se souvient du Brexit en 2016, on avait eu une forte chute au moment de l'annonce du Brexit, et fin juillet, on avait retrouvé toute la tendance parce qu'on avait eu des publications de résultats de qualité. Donc, c'est les publications de résultats qui vont nous donner le là au cours des prochaines semaines. Maintenant, bien sûr, le contexte géopolitique, qu'il va falloir le regarder avec attention. Mais ça donne historiquement plutôt des effets immédiats. Et puis après, le marché régule et digère les nouvelles, en fait.
Mais pour vous rassurer, Stéphane, quand on regarde sur plusieurs décennies le comportement du marché boursier en période de guerre, la bourse est capable de monter.
Ouais.
Donc la bourse accuse le moment de la guerre, et c'est là qu'il y a un fort décrochage. Et après, durant la guerre, il y a une progression du marché action.
Et certaines valeurs en profitent. Enfin, en profitent, c'est difficile de s'exprimer comme ça, mais en tout cas, certaines valeurs...
Voilà, mais globalement, la bourse est capable,
grâce à l'augmentation des dépenses militaires,
un conflit et un contexte géopolitique dégradé. Ouais. En revanche, la bourse est allergique aux crises financières. C'est la crise financière qui fait le plus de mal aux actionnaires.
Une dernière question avant de passer à la croissance chinoise, mais est-ce que vous êtes inquiète, Isabelle, d'un éventuel retour de l'inflation? Je le disais en titre, Bank of America estime que si la tendance actuelle se poursuit, on pourrait être à 4,8% d'inflation aux États-Unis en rythme annuel au mois de novembre. Ça reste un des scénarios qui ont été mis en avant. Mais le retour de l'inflation, c'est un fait. Et même en Europe, Christine Lagarde parlait de boss. d'inflation.
Oui, en fait, le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir une tendance qui soit très claire, et c'est ce qu'on a eu depuis fin 2022 à aujourd'hui, avec vraiment une désinflation très progressive, assez rapide, même beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, effectivement, ce dernier kilomètre, il est beaucoup plus compliqué, mais globalement, c'est pas non plus étonnant. On peut pas, on le voit bien dans l'inflation aujourd'hui, il y a des composantes qui sont vraiment écrasées, et en fait, le rebond d'inflation que l'on connaît, c'est sur certaines composantes très précises qui ont beaucoup plus de difficultés à se réguler. Donc c'est là où c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui toutes ces composantes globalement donnent des tressautements. Il y a aussi la perspective qu'on peut avoir un prix de l'énergie ou un prix du pétrole qui soit un tout petit peu plus important, notamment avec le contexte géopolitique. Donc tout ça, ça nous projette vers un petit peu plus d'inflation. Est-ce que pour autant la tendance est celle de revenir à ce qu'on avait il y a quelques mois? Non. On a vraiment cette tendance qui est inscrite, et effectivement ces dernières statistiques jettent le trouble sur la politique monétaire et les perspectives de baisse des taux d'intérêt, mais globalement on est bien dans un processus de désinflation. Maintenant ça prendra peut-être un petit peu plus de temps.
Viol l'antenne. Pardon, excusez-moi. On va jeter un œil à la Bourse de Paris, puisqu'on est à moins de 20 minutes, allez, du fixing. Toujours en baisse, hein, 7922 points sur le CAC, on perd 1,5%. Toutes les valeurs du CAC sont en baisse, sauf 2. Orange qui progresse de quasiment 1%, Téléperformance plus 0,5%. Puis alors, du côté des valeurs en baisse, on a ArcelorMittal qui perd 6,7%, plombé par un changement de recommandation, puis c'est une valeur cyclique. Tout le secteur automobile, Renault moins 4,2%, Stellantis qui perd 3%. À noter qu'on aura des publications après la clôture, ça peut changer la donne pour demain, François le disait. LVMH qui va publier son chiffre d'affaires juste après la clôture. Le fixing, ce sera à suivre évidemment à 17h35 avec Étienne Braque et nos invités. Retour au club avec la Chine, les chiffres de la croissance. On les attendait, ces chiffres, hein, de la croissance chinoise. 5,2% au quatrième trimestre, 5,3% au premier trimestre de cette année. C'est mieux que prévu. Pour autant, est-ce que c'est rassurant, Isabelle?
C'est compliqué, effectivement. On voit que on a eu quand même globalement l'économie qui a souffert, mais la question de la croissance, ça va être la question de l'immobilier. Le poids de l'immobilier dans la croissance chinoise aujourd'hui est très important. On voit qu'on a beaucoup de difficultés à sortir de cette crise immobilière. On est encore extrêmement marqué. Et puis surtout, on a aujourd'hui des consommateurs ou des citoyens chinois qui ont perdu la confiance. Donc ça vient appuyer aussi globalement sur les données économiques. Donc ce qui est compliqué avec la Chine, c'est qu'il y a eu une volonté de muter toute une économie qui était totalement tournée vers l'extérieur, vers une consommation intérieure et une vraie mutation en faveur des particuliers. Et on voit que ça, ce cap, ils ont beaucoup de difficultés à le mettre en place. C'est aussi ce signal qui est donné, qui est plus compliqué à digérer pour les investisseurs.
François, on en parlait déjà tout à l'heure, vous étiez avec nous dans la famille BFM Bourse. On a pris l'habitude à être un peu prudent par rapport aux publications macroéconomiques chinoises.
C'est vrai, et c'est pour ça que finalement il y a de moins en moins d'impact lorsque la Chine communique sur des données macroéconomiques. En revanche, là où ça va être très intéressant, c'est lorsque les entreprises vont publier leur chiffre d'affaires et qu'on aura la décomposition géographique de ce chiffre d'affaires pour savoir s'il y a toujours de la croissance en Chine. Et ça sera un impact très important sur les cours de bourse et donc sur les indices. Donc en fait, c'est le deuxième effet qui aura de l'impact. C'est lorsque les entreprises vont dire, voilà nous, quel est notre niveau d'activité en Chine, voilà notre niveau de croissance, voilà nos anticipations dans cette zone géographique. Et c'est là-dessus que les investisseurs vont se baser en disant, oui, la Chine, c'est rassurant ou c'est plutôt inquiétant. Donc là, pour l'instant, c'est trop tôt pour statuer. C'est vrai qu'un chiffre au-dessus de 5, on a envie de dire, c'est quand même plutôt rassurant lorsqu'on voit l'ampleur de la crise immobilière dans ce pays. Mais l'heure de vérité, c'est vraiment lorsque les entreprises, parce que là, les chiffres, ils seront indiscutables lorsque les entreprises vont communiquer leur niveau de chiffre d'affaires trimestriel.
Ça sera le juge de paix. Est-ce qu'il faut toujours investir en Chine? On sait par exemple que Amundi a toujours une conviction positive en faveur de l'investissement en Chine, même s'ils le reconnaissent, et Valérie Baudson le dit, il faut faire du stock picking, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Est-ce que vous avez le même sentiment, Isabelle? Est-ce qu'on peut toujours investir sur le marché chinois? Enfin, si on regarde la bourse de Hong Kong, c'est quand même pas l'Eldorado en matière de performance globale.
Après, je pense que c'est la perspective qu'on a à long terme sur la Chine. Est-ce qu'elle a changé par rapport à la perspective long terme qu'on avait regardez il y a une dizaine d'années. On voit quand même qu'il y a des signaux qui ont été donnés à la fois aux investissements étrangers en Chine, mais également aux investisseurs financiers sur les entreprises chinoises qui ne sont plus les mêmes que le pragmatisme économique auquel on a été habitué. Et c'est là où il faut avoir cette nuance. À court terme, on est sur des niveaux de valorisation, notamment sur certaines entreprises qui sont intéressantes, et il y a des entreprises de qualité, donc il y a sans doute à court terme des choses à aller y faire, parce que il y a eu ce marché qui a été massacré, et donc là on peut attendre un rebond, et on voit que les autorités chinoises, même si elles donnent des signaux, c'est très progressif et beaucoup moins important que ce qu'on a eu par le passé. À long terme, effectivement, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui se posent cette question, donc aujourd'hui, nous, à court terme, la valorisation va nous guider, mais il y a une vraie réflexion sur l'investissement en Chine à long terme.
Et puis vous le disiez tout à l'heure, François, il y a un élément qui peut changer la donne en cas d'élection de Donald Trump. Les relations commerciales risquent de se tendre à nouveau entre la Chine et les États-Unis. Ça aussi, ça change les perspectives.
Oui, même si elles n'ont pas non plus été évidentes sous l'ère Biden. Donc on voit quand même que, en tout cas, vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui les grands changements de tendance. Là, on sait que la mondialisation, j'allais dire heureuse, elle est terminée et qu'on est rentré dans une nouvelle ère qui est la fragmentation du monde et avec des zones géographiques, des pôles. Et cette fragmentation génère en fait un désintérêt des Occidentaux et des investisseurs à l'égard de la Chine en se disant finalement si on investit, peut-être que demain on pourra pas récupérer notre mise parce que les avoirs seront gelés. Donc ça, c'est un facteur handicapant. Et puis tout le monde attend d'avoir une vraie visibilité sur l'ampleur de la crise immobilière. On sait qu'une crise immobilière, ça dure plusieurs trimestres, voire parfois plusieurs années. Donc ça, voilà, un véritable signal qui pourrait dire il faut y aller en Chine, c'est la crise immobilière est terminée. Là, pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc, il faut bien sûr rester attentif. Mais ça peut toujours être un investissement par opportunisme.
Dans un instant, la Data Room, vous êtes venus l'un et l'autre avec un chiffre que vous souhaitiez commenter à l'antenne, mais vous avez entendu la cloche. C'est Étienne qui nous appelle depuis Euronext. Étienne, ça ne s'améliore pas. On est à 7924 points sur le CAC et il reste 10 minutes avant le fixing.
Moins 1,5%, c'est le tarif du jour après une belle hausse hier de 0,4%. Un CAC 40 qui revient sur des plus bas de 6 semaines à 7924 points. Du rouge également pour le DAX à Francfort, moins 1,5% ou encore l'Eurostox qui perd 1,4%. Quand à Wall Street, eh bien, vous avez trois indices américains qui sont quasiment stables. Alors comme on a pu le constater ces dernières semaines, ces séances de baisse se font avec des volumes plus importants que dans les séances de hausse, plus quasiment 1,9 milliard d'euros échangés dans l'indice parisien, avec notamment le secteur du luxe qui est sous pression avant LVMH ce soir. La valeur perd 1,6% à 781 euros. Peut-être des ventes au détail qui ont un petit peu déçu cette nuit en Chine. Et puis bien sûr, ce qui bloque ce marché, vous en avez parlé, c'est cette remontée de l'obligataire. 4,65 pour le 10 ans américain sur des plus hauts de novembre dernier. Et puis à surveiller ce soir à partir de 19h, Jerome Powell qui participera à un colloque. Ça sera intéressant de voir s'il va évoquer ou non les dernières statistiques américaines qui ont surpris le marché, notamment l'inflation la semaine dernière.
Merci Étienne, on se retrouve tout à l'heure au Fixing avec Romain Daubry pour l'analyse technique. Retour en plateau avec Isabelle Hénos, responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas Banque Privée, et François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. On passe à la Data Room. Vous êtes venus, l'un et l'autre, avec un chiffre que vous souhaitiez commenter. Isabelle, plus 19%, c'est la hausse du cours de l'argent, le métal, depuis le début de l'année. Et c'est vrai qu'on en parle assez peu parce qu'on est souvent focalisé sur l'or.
Oui, et l'or et l'argent ont historiquement été plutôt liés par une tendance assez commune, et c'est pas le cas depuis 2020 et depuis la pandémie. Alors 19% depuis le début de l'année, c'est même plus 25% depuis le mois de mars. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique, il y a même un relais qui s'est pris par l'argent, qui va beaucoup plus vite que l'or sur les derniers jours.
Et quel est le moteur ?
Alors le moteur, généralement les moteurs, c'était la baisse des taux d'intérêt, notamment pour les deux. Mais on a vu ces dernières années, et notamment avec l'or, que ça n'a pas été le cas. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'argent est un des composants importants dans tout ce qui est lié à la transition énergétique, et notamment dans la construction des panneaux solaires, et notamment les panneaux solaires de nouvelle génération, mais également dans l'électronique. Et donc, c'est aussi un signal d'un redémarrage de l'activité et un redémarrage de la demande au niveau industriel. Et ça, c'est intéressant. Alors, bien sûr, ça a aussi une vocation de valeur refuge, beaucoup moins que l'or, mais le contexte est beaucoup plus favorable. Il y a une forme de rattrapage qui est en train de s'opérer, qu'on attend peut-être déjà, nous, en tous les cas, depuis un an et demi, c'était quelque chose qu'on regardait avec attention. Mais on voit que le redémarrage est en train de se matérialiser depuis ce début du mois de mars.
François, un commentaire ?
Oui, je pense que l'or fait valeur de refuge dans un contexte géopolitique qui se dégrade. Il y a aussi un changement là de positionnement du Sud global, et on le voit, les banques centrales qui font partie du Sud global se mettent à acheter quand même plus d'or que par le passé. Donc ça, c'est un nouvel acteur, alors qu'avant, il n'y avait pas de grand mouvement.
C'est ce qui a expliqué cette décorrélation entre l'or et l'argent ces derniers mois.
Et ça, on peut penser que c'est un phénomène qui va probablement durer dans le contexte justement de fragmentation du monde, donc un regain d'intérêt pour l'or. Et puis bien sûr, l'or, quand il y a des périodes inflationnistes, c'est aussi intéressant. Donc voilà, donc il y a aujourd'hui des raisons, en tout cas, de rester convaincu que l'or ne va pas s'effondrer dans les semaines qui viennent.
On passe à votre data room à vous, François Monnier. 2%, la majorité des pays de l'OTAN dépenseront 2% de leur PIB dans les dépenses militaires cette année.
Oui, on voit maintenant que c'est un peu la course à l'armement qui se matérialise. Il y a 10 ans, dans les pays on a 31 membres de l'OTAN, il y a 10 ans, il n'y en avait que 3 qui étaient capables de dépenser 2% ou plus de leur PIB en dépenses militaires. 3, on était à 11 l'année dernière, donc en 2023. On sera à 18, donc plus de la moitié en 2024. Donc on voit que maintenant, voilà, tout le monde a compris qu'il fallait se réarmer. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est une tendance de fond, c'est une tendance qui est lourde, et c'est une tendance qui va durer au-delà de 2024, qui va durer hélas en 2025, 2026, et probablement peut-être encore pendant une décennie.
Mais il y a un vrai impact boursier.
Donc il y a un impact boursier parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'univers de l'armement, l'univers de la défense offre de la visibilité et de la croissance dans un contexte où on ne sait pas si demain il y aura une baisse des taux, on ne sait pas demain s'il y aura une récession un peu plus forte que prévu en Allemagne. En France, le FMI vient encore de dégrader la croissance économique de l'Hexagone. Donc voilà, on recherche un petit peu des signes, enfin, ou des secteurs ou des thématiques qui offrent de la visibilité, et la défense fait partie maintenant de ces secteurs qui offrent une visibilité, et une visibilité qui offre de la croissance. Donc vous avez un double effet, et ce double effet bien sûr se matérialise dans les cours de bourse. On en parlait tout à l'heure, Rheinmetall valait 50 euros il y a 4 ans, là on est à 540 euros. On a Thales qui fonctionne très bien, on a BAE Systems au Royaume-Uni qui est recherché. Donc aujourd'hui, pour avoir un portefeuille équilibré, il faut avoir, je pense, quelques valeurs de croissance. Il ne s'agit pas de se dire on va avoir que des valeurs liées à l'armement. Il faut rester, bien sûr, diversifié. Mais pour moi, c'est une thématique incontournable aujourd'hui.
Ça a même entraîné, Isabelle, un changement de la notion d'investissement responsable il y a quelques années. L'armement, ça n'entrait pas dans les critères de l'investissement responsable. C'était pareil pour les énergies fossiles. Là, on a quand même changé notre fusil d'épaule. Alors, on va pas revenir complètement en arrière, mais l'armement, c'est une façon de défendre nos démocraties et nos libertés. Et en ce sens, certains, ou une majorité maintenant, le considèrent comme un investissement responsable.
Alors, pas qu'on peut, tout dépend de quels critères on prend
ça
derrière.
Ça reste effectivement particulier.
Oui, alors après, il y a une demande qui est en train de monter d'un certain nombre d'investisseurs d'avoir aussi, pour ces raisons de perspective et de tendance de croissance. Après, aujourd'hui, on considère quand même que ça reste hors des critères qu'on a sur les critères ESG. Hein. On est quand même, que ce soit d'ailleurs l'énergie fossile ou
les fameux articles.
Ouais, voilà, exactement. Aujourd'hui, ça reste quand même en dehors. Par contre, il est vrai que sur la période plus récente, mais c'est lié à l'actualité, c'est lié à la montée et à la croissance qu'on a sur ces segments-là, il y a une demande qui émerge. C'est généralement pas des mêmes investisseurs.
Ouais. Mais ce qu'on peut voir depuis le début de l'année, c'est que si vous êtes un investisseur qui respecte vraiment tous les critères ESG, vous faites un parcours boursier détestable, puisqu'il fallait avoir du pétrole, il fallait avoir du véhicule thermique, et il fallait avoir de l'armement. Donc la thématique ESG, en tout cas pour ce premier trimestre, voire ces 4 premiers mois de l'année, n'a pas été au rendez-vous par rapport j'ai envie de dire à l'investissement qui est classique. Alors bien sûr, il y aura des cycles, l'ESG n'a pas dit son dernier mot, et il faut plébisciter ce type d'investissement pour donner du sens à ses placements. Mais force est de constater qu'au cours de ces 4 mois, ceux qui ont respecté à la stricto sensus les critères ESG, ont eu du mal à battre les indices.
Ouais. On a un indice, on a créé un portefeuille, BFM responsable, on en parle régulièrement dans cette émission, et c'est vrai qu'en respectant les critères, on est à 3,8% de hausse depuis le début de l'année.
Oui, c'est compliqué de battre les indices. Ouais.
Alors après, c'est de toute façon des tendances de fond et de l'investissement long terme. Il faut bien le recalibrer sur cette perspective.
Oui, vous savez ce qu'on dit, l'investissement long terme, c'est du court terme qui a mal tourné.
Oui, alors c'est vrai en bourse, mais c'est vrai que pour le coup, là, on est sur des plans d'investissement qui sont des plans d'investissement très long terme. On parlait des énergies renouvelables tout c'est à vrai. L'heure, à l'instant, avec le solaire. Ce n'est pas des plans qui peuvent se faire sur des années, sur très peu d'années. Et puis forcément, le contexte de taux n'a pas aidé non plus avec la perspective, même si on se pose des questions sur l'inflation, avec la perspective quand même de baisse de taux d'intérêt, ça va quand même aider le segment dans les années à venir.
François disait quelque chose d'intéressant, c'est que les crédits militaires, ce sont des crédits votés longtemps à l'avance, des investissements sur plusieurs années. Ça, c'est un peu le rêve pour les investisseurs d'avoir une visibilité comme ça sur tout un secteur. Quand on investit, non ?
Non, mais c'est clair, c'est ouais. clair. Après, c'est toujours une question de technologie. Et dans les technologies, vous pouvez être leader à un moment et vous pouvez rater très rapidement une technologie juste après.
C'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation au club. Isabelle Hénos, responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas Banque Privée. Et merci à François Monnier d'avoir passé une heure avec nous en plateau, directeur évidemment de la rédaction d'Investir. Dans un instant, le fixing, le moment de vérité. 7921 points pour l'instant sur le CAC, on recule de 1,5%. C'est une séance de baisse, ce n'est pas catastrophique comme disait François Monnier. Mais on va regarder ce qui a baissé aujourd'hui et pour quelles raisons avec Étienne Brack, qui sera avec nous juste après la pause. Et Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse. À tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext.
Séance de rouge à Paris et évidemment on a cassé un niveau important puisqu'on est passé sous la barre des 8000 points. C'est plus un seuil psychologique qu'un véritable seuil technique. Étienne, forcément c'est pas très très fameux le bilan de cette séance.
Et oui, même si le CAC 40 a réussi à grappiller quelques points lors du fixing et évite de signer ce soir sa pire séance de l'année, puisque le 3 janvier dernier, il avait perdu 1,58 et là, ce soir, il perd 1,4% à 7932 points. Mais bon, en effet, c'est pas glorieux. Une baisse généralisée en Europe, moins 1,4%, c'est peu ou prou le tarif du jour pour le DAX, idem pour l'Eurostoxx 50 qui perd 1,3%. À noter le VIX, la volatilité de la peur qui redescend un petit peu aux États-Unis après avoir hier touché des niveaux d'octobre dernier au-delà des 19 points. Aux États-Unis, vous avez trois indices américains qui sauvent un petit peu la mise par rapport à ce qui se passe en Europe, puisque vous avez un Dow Jones qui gagne 0,2% grâce notamment à United Health qui gagne un peu plus de 5% grâce à des résultats meilleurs que prévu. Le Nasdaq est parfaitement stable quand le S&P perd 0,1%. Parmi les faits marquants de cette séance, le pétrole qui repart déjà de l'avant, plus 0,2% pour le Brent à $90. Vous avez l'once d'or qui est à la porte des 2400 à 2396. Et puis, ce qui a fait barrage un petit peu aujourd'hui sur cette séance du jour, c'est la remontée de l'obligataire, comme hier, avec bien sûr des trésors américains qui sont recherchés. Forcément, vous avez quand même quasiment 4,6% de rendement sur du 10 ans américain et même 5% sur du 2 ans. Autant dire que les investisseurs sont payés pour attendre et n'ont pas envie de prendre des risques avant, bien sûr, les résultats d'entreprise. Dans quelques minutes, vous aurez les ventes de LVMH. Demain, vous aurez ASML, première capitalisation, pondération même de l'indice Stoxx 50 et puis jeudi L'Oréal. Donc ça va animer un petit peu les prochaines séances. Parmi les valeurs marquantes, ArcelorMittal perd quasiment 7% après s'être fait dégrader, 23,76. Vous avez le secteur automobile qui prend quelques bouillons hein, avec notamment un très beau parcours, des prises de bénéfices sur Renault moins 3,8 ou encore Stellantis moins 2,90 à 24,26 et puis le secteur du luxe également qui sous-performe à l'image de Kering moins 2,8 à 340 ou encore LVMH qui perd 1,6%. Un dernier mot de l'euro-dollar qui se stabilise à 1,0625 et donc la Bourse de Paris qui perd 1,4% ce soir à la clôture et puis surtout les 8000 points, 7932 points, le tout avec du volume 3,5 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice Stéphane.
Merci beaucoup Étienne Brack en direct du siège d'Euronext. Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse, est également avec nous. Stéphane, vous nous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas casser les 7900 points, sinon on risquait de se retrouver directement à 7820, je crois, de mémoire.
Oui, c'est exactement ça. C'est le prochain niveau à surveiller, les 7900 points. Alors on verra bien sûr avec les résultats de LVMH hein, qui conditionneront bien entendu la séance du CAC 40 demain matin compte tenu de son énorme pondération dans l'indice parisien. Je retiendrai quand même de cette séance l'ouverture de ce gros gap. Hein, c'est un espace vierge de cotation à la baisse hein, entre 8028 points et 7976 points. 52 points de trou, hein, ça reste très important. Ça restera également une force de rappel à la hausse quand le CAC 40 aura fini cette correction. Pour repasser du bon côté de la barrière, il faudra combler ce gap, donc c'est-à-dire passer au-dessus des 8030 points et surtout au-dessus des 8130 points. Mais là, on est bien loin de ce scénario pour le moment, ou tout du moins aujourd'hui. On verra demain. Hein. Demain sera une autre journée avec les résultats du LVMH. Mais c'est vrai qu'on surveillera quand même les 7900 points parce que passer en dessous réouvrirait un potentiel de baisse d'au moins 80 points sur les 7820 points, avec peut-être même en bout de course, hein, les 7720 voire 7680 points, mais on n'en est pas encore là. Il va falloir quand même attendre les résultats de LVMH qui seront publiés dans quelques minutes.
Merci beaucoup Stéphane Sauduteil. Vous restez avec nous, on va refaire la séance.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Kathleen Gaillot. Bonsoir.
Bonsoir.
Responsable de la recherche européenne Small et Mid Cap chez Kepler Chevreux. Et puis Stéphane Sauduteil qui nous rejoindra tout à l'heure puisqu'on va parler d'LVMH lorsque les chiffres seront sortis. D'abord, Kathleen, votre sentiment sur cette séance. Rien de catastrophique, mais on sent quand même qu'il y a des inquiétudes. Le retour de l'inflation, les taux de la Fed qui pourraient rester inchangés, peut-être jusqu'aux élections américaines, le contexte géopolitique international, ça devient un peu plus compliqué et moins facile à lire.
Oui, c'est absolument ça. C'est une accumulation de tensions, la matérialisation de risques d'escalade géopolitique, couplée avec des mauvaises nouvelles d'un point de vue de l'inflation, ou du moins un petit peu supérieure aux attentes. Et ça fait redouter des baisses de taux plus tardives aux États-Unis. Donc, voilà, ça reste quand même plutôt une phase de pause. On pense qu'il est toujours possible d'avoir un peu un découplage de l'Europe avec les États-Unis, où les nouvelles sur l'inflation sont quand même un peu meilleur, donc à voir dans les prochains mois, mais c'est pas non plus une inflexion majeure. On débute aussi tout juste la saison de publication des résultats avec ce soir LVMH et seulement quelques résultats qui ont été publiés, donc ça va donner un peu d'éléments au marché pour réagir.
On vous donnera bien sûr les chiffres d'LVMH dès qu'ils vont être publiés. Orange, l'une des rares valeurs en progression ce soir sur le CAC, 1,1% de progression. Alors, on le disait tout à l'heure en début d'émission, c'est une valeur que vous aimez bien et vous venez de publier des prévisions sur Orange.
Absolument, en amont de la publication des résultats mercredi prochain. C'est effectivement une de nos valeurs préférées qui joue son rôle de valeur défensive aujourd'hui. C'est notre titre préféré au sein du secteur des télécoms, une société qui bénéficiera d'une génération de free cash flow très solide. On anticipe une croissance de 7% sur les prochaines années qui va permettre de poursuivre le désendettement, couplé à une amélioration du rythme du ROCE, donc du retour sur capitaux investis, assez significative, et avec toujours une optionnalité sur le portefeuille d'actifs. Il pourrait y avoir de nouvelles sessions d'activités un peu rentables. Ça permettra de continuer d'améliorer le retour à l'actionnaire. On anticipe un rendement de plus de 7% sur le titre, avec une progression du dividende de 4% sur les prochaines années. Donc tous ces éléments renforcent notre confiance dans Orange, et ça reste une de nos valeurs préférées en Europe. Notre équipe de stratégistes appelle aussi à une diversification actuellement dans les marchés, en dehors des titres emblématiques du segment de la croissance et en faveur des défensives notamment.
Stéphane Sauduteil, vous êtes avec nous. D'un point de vue technique, Orange, qu'est-ce que ça nous indique? On a signé finalement une assez belle séance compte tenu de la performance du CAC.
Oui, c'est vrai. Bien, Orange est dans une tendance haussière déjà depuis pas mal de temps, hein, depuis 2020. On est vraiment dans une logique haussière, hein, avec des points bas toujours plus hauts les uns par rapport aux autres. Il faudra pas casser surtout les 9,80 sous peine de casser un petit peu cette dynamique. On est un petit peu au-dessus, je pense. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, même si on a un plafond de verre hein, autour des 11,50. Hein, c'est un niveau qui a vraiment du mal à être débordé. Si de par hasard il était débordé, là effectivement, on ouvrait quelque chose de beaucoup plus positif avec peut-être 12-13 euros en point de mire. Mais c'est vrai que des achats sur les niveaux actuels me semblent tout à fait opportuns.
Là, on est à 10,48 euros et on progresse ce soir de 1,1%. L'actualité, c'est également Amundi qui a annoncé une acquisition aux États-Unis. Donc, la société d'investissement va devenir encore plus grosse.
Oui, absolument. Amundi a annoncé la fusion des activités américaines avec Victory Capital. Ouais. Donc, ça permet de se renforcer dans le pays, d'avoir des accords de distribution exclusifs. Et c'est un deal qui, selon nous, fait beaucoup de sens, qui va être relutif dès à présent. Et finalement, ça permettra à Amundi de se concentrer sur ses principales zones de développement, l'Europe, l'Asie, qui sont les principales zones sur lesquelles il souhaite faire du M&A. Donc, on accueille positivement cette nouvelle.
Ouais. Et on a eu une autre annonce dans un tout autre secteur, Prysmian. C'est un groupe italien spécialiste des câbles qui annonce une acquisition également aux États-Unis, plus de 4 milliards de dollars entièrement en cash.
Oui, c'est les bénéfices hein, d'avoir les reins solides pour conduire ces politiques acquisitives. C'est la troisième opération d'envergure hein, pour Prysmian. Ils avaient réalisé Draca en 2011, General Cable en 2018. Deux acquisitions qui... Enfin, très bon track record hein, de la société. Elles avaient eu un effet relutif sur les résultats du groupe. Donc là, ils achètent Encore Wire aux États-Unis. Ça permet de se renforcer considérablement dans le pays et sur un marché qui est pour les câbliers très rentable. Donc ça permettra une nouvelle appréciation des marges. On devrait cibler les 18-20% d'ici 2027. Donc aussi une opération qu'on accueille très favorablement.
Le Prysmian, pardon, ce soir termine en baisse de 2,5%, 49,42 €. C'est une valeur que vous suivez, Stéphane Sauduteil?
Oui, tout à fait. C'est vrai que le parcours est vraiment très beau. Depuis fin 2024, on a pris 60%. On a une petite accélération haussière ces dernières semaines. Il faut faire quand même attention à cette accélération, d'autant que on a touché 52,50 avant vraiment de refluer un petit peu nettement. Il faudra surveiller les 47 euros. Si on passait en dessous, on pourrait avoir une petite phase de correction vers les 45-43. Mais si on devait descendre dans cette zone-là, je pense que ce serait effectivement une opportunité d'achat pour viser un retour certainement vers les 52, voire peut-être au-delà à moyen long terme.
Et on attend toujours les chiffres de LVMH qui doivent être publiés après la clôture. On va parler d'une autre publication attendue, c'est L'Oréal. Et peut-être un indicateur par rapport à cette publication, on a eu des chiffres de Beiersdorf en Allemagne.
Oui, absolument. Donc Beiersdorf a publié des chiffres.
Beiersdorf, c'est Nivea notamment.
Oh, notamment, exactement. Et c'est notamment la marque qui explique la bonne surprise qu'on a eue sur les ventes de Beiersdorf au T1. Elles ont légèrement battu les attentes du consensus, et notamment grâce à Nivea. Et c'est ce qui permet au groupe de relever ses attentes et de relever ses objectifs pour la division consommateur notamment. Donc ça, c'est probablement ce qui a aidé L'Oréal en cours de journée. Ça fournit un read across assez positif, alors même qu'on avait eu plutôt dans la journée les données de vente au détail de mars pour la beauté qui était un petit peu décevante. Donc finalement, nous on alertait sur un T1 potentiellement un petit peu faible, mais ça semble désormais bien intégré. On reste positif sur L'Oréal pour à horizon un petit peu plus long.
415,10 € pour le titre L'Oréal. Il perd 0,08% ce soir en clôture. C'est la troisième meilleure performance du CAC puisqu'il n'y a que deux valeurs en territoire positif. Et juste derrière, on a L'Oréal. On attend toujours les chiffres de LVMH, Stéphane Sauduteil, mais on va peut-être dire un mot de la valeur. On était largement, très largement au-dessus des 800 € il y a encore quelques semaines. Et puis là, on est en dessous. On a perdu quoi, 90 € en l'espace de quelques semaines?
Oui, c'est vrai. C'est bien normal que l'on corrige, puisqu'on avait pris 37% en deux mois, entre mi-janvier et mi-mars. On était passé de 645 à 885 euros. Le fait de casser les 830 euros a entraîné une phase de correction assez légitime. C'est simplement une respiration, certes un peu profonde, mais compte tenu du parcours, on ne pouvait pas s'attendre à moins. Alors, on va surveiller maintenant les 830. Il faudrait repasser au-dessus de ce niveau pour retrouver une dynamique positive et peut-être les points hauts à 885 euros. Par contre, si on avait des résultats un peu décevants, on pourrait aller chercher un peu plus bas. On pourrait aller chercher les 765, voire les 735 euros. Guère plus bas, à mon sens. Sinon, on casserait vraiment cette forte dynamique haussière. Mais il va falloir surveiller effectivement les résultats qui seront publiés dans quelques minutes.
LVMH, on attend toujours les chiffres. C'est une valeur qui se paie 24 fois les perspectives de résultats pour 2024. Et elle a terminé ce soir en recul de 1,6% à 781 euros. Toujours pas de publication, on vous la donnera dans les prochains journaux. Merci à vous d'avoir été en plateau. Kathleen Gaillot, responsable de la recherche européenne Small et Mid-Cap chez Kepler Chevreux. Et merci également à Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse. Je vous rappelle la clôture de ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC termine en baisse de 1,4%, 7 932 points. Les marchés américains sont partagés. On est en très légère baisse sur le S&P, moins 0,04%. Le Dow Jones progresse de 0,4%. Le Nasdaq, lui, est inchangé. 15 887 points. À suivre dans un instant, Good Evening Business avec Guillaume Paul et toute son équipe. Et je vous retrouve demain à 15h30 pour une nouvelle édition de BFM Bourse. Très bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.